Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers fidèles, chers enfants, l'Église nous fait célébrer aujourd'hui l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité après le sacrifice du calvaire, et qui a d'ailleurs conditionné ce dernier, l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Cet événement est si important que la chrétienté a pris l'habitude de le commémorer 3 fois par jour, par la récitation de l'Angélus, et l'une de nos plus belles cathédrales en France a été construite pour abriter le voile que Notre-Dame portait à ce moment unique de l'histoire, la cathédrale de Chartres. Si le mystère le plus grand qui a eu lieu en ce jour est certes le mystère de l'incarnation, c'est plutôt à Noël que l'Église se réserve de le célébrer, au jour où le Verbe incarné s'est montré au monde. Aujourd'hui, l'Église adresse ses hommages à celle qui a rendu possible la venue du Sauveur, en donnant son consentement au nom de toute l'humanité. La très sainte Vierge Marie. La fête d'aujourd'hui porte d'ailleurs non pas le nom de fête de l'incarnation, mais fête de l'Annonciation, Annonciation de l'ange à Notre-Dame. Tâchons donc de méditer quelques instants sur cette scène unique. Et d'abord, posons le cadre, le lieu, l'heure, les personnages. Le lieu d'abord, une humble et toute petite maison appuyée au rocher, dans un village dont on ne trouve même pas la mention dans tout l'Ancien Testament. On disait même, que peut-il sortir de bon de Nazareth ? L'heure, c'est aux alentours de minuit. Une heure où habituellement tout le monde dort, surtout en ces temps où il n'y a pas d'électricité. Mais c'est justement l'heure la plus propice aux manifestations divines. Les personnages, enfin. On peut les considérer d'abord de l'extérieur, sur un plan purement naturel. Une jeune vierge, entre 13 et 15 ans, mais en train de prier dans la nuit, ce qui n'est quand même pas courant. Elle est certes de race royale, de la postérité de David, mais une branche très humble. Et puis un ange, l'un de ces êtres qui sont de purs esprits et dont nous sommes séparés d'une distance presque infinie. Et ce n'est pas n'importe quel ange, c'est un archange, l'archange Gabriel. L'archange de l'Annonciation, qui a déjà prédit au prophète Daniel la date de la venue du Sauveur, et qui a annoncé à Zacharie la naissance de Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Une humble et toute jeune vierge et un archange. Mais si l'on considère les personnages sur le plan surnaturel, tout s'inverse. C'est l'archange qui vénère la jeune Vierge. À l'île Bouchard, en Touraine, où Notre-Dame est venue sauver la France du communisme en 1947, ayant avec elle l'archange Gabriel, protecteur de la France avec Saint-Michel, c'est la scène de l'Annonciation que voient les 4 petites filles. L'archange Gabriel, qui a pris une forme humaine, sans doute comme il y a 2000 ans, a un genou en terre devant Notre-Dame. Il vient rendre hommage à sa reine. Car sur le plan surnaturel, la Sainte Vierge est la reine des anges et de toute la création. Dès le commencement et avant tous les siècles, dit le pape Pie IX, Dieu avait destiné à son Fils unique la mère de qui il naîtrait dans le temps, au jour de son incarnation. Et dans ce but, il aima la Vierge Marie par-dessus toutes les créatures, d'un tel amour qu'il la combla de ses grâces, bien plus que tous les anges et que tous les saints, l'exemptant entièrement du péché originel. Si bien qu'en dessous de Dieu, on ne peut concevoir une sainteté plus grande que celle de Notre-Dame et que Dieu seul peut en mesurer la grandeur. Ceci nous renvoie d'ailleurs à la sainteté de notre Seigneur. Le Verbe de Dieu est si saint qu'il ne pouvait s'incarner et demeurer 9 mois dans une créature qui aurait été moins sainte. Mais écoutons maintenant le dialogue entre l'archange et la jeune Vierge. Saint Thomas d'Aquin nous fait admirer l'ordre parfait que nous rencontrons dans cette conversation et qui ne doit pas nous étonner parce que tout ce qui est de Dieu est parfait. L'archange avait en effet en vue d'opérer en 3 étapes. D'abord, attirer l'attention de Notre-Dame. Ensuite, l'instruire sur le mystère qui allait s'accomplir en elle. Et enfin, obtenir son consentement à ce mystère. Pour attirer son attention, d'abord, il la salue d'une manière tout à fait insolite, non seulement inhabituelle chez les Juifs, mais qui n'avait jamais été employée dans la Sainte Écriture que Notre-Dame connaissait. Elle ne pouvait donc pas reconnaître cette salutation, et cela l'étonna beaucoup. Et d'ailleurs, cette salutation ne pouvait être adressée qu'à elle seule. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Pleine de grâce. Elle seule, en effet, est pleine de grâce, dit saint Jérôme. Aux autres, la grâce n'est donnée que partiellement. Le Seigneur est avec vous. Celui qui envoyait l'ange à la Vierge était déjà avec elle. Le Seigneur a précédé son messager. Mais pour être davantage avec elle, il faut qu'une présence toute nouvelle commence en elle. Une présence dans la chair. Et c'est pour l'annoncer qu'il envoie son ange. Et l'archange prédit les honneurs sans fin qui en rejailliront sur Marie. Vous êtes bénie entre les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse, chantera bientôt Notre-Dame dans son Magnificat. Notre-Dame est troublée de ce discours. Comment pourrait-il en être autrement? Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu, lui dit aussitôt l'ange. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu n'a rien à craindre, commente saint Jean Chrysostome. Ayant attiré l'attention de Notre-Dame par sa salutation, l'ange l'instruit aussitôt par un discours magnifique sur le mystère qui va s'accomplir en elle. Ecce concipies in utero et paries filium. Voici que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Ecce concipies. Voici que vous concevrez. Selon un texte patristique grec cité par saint Thomas d'Aquin, le mot « ecché » indique que cela va s'accomplir immédiatement. Et voyez comme l'ange insiste sur la dignité de celui qui va s'incarner dans le sein de Notre-Dame. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?»« Je ne connais point d'homme. » Notre-Dame avait en effet fait vœu de virginité. ayant fait vœu de virginité, comment pourra-t-elle alors concevoir dans son sein et enfanter ? Saint Ambroise écrit à ce sujet : si l'on se borne à demander comment une chose se fera, c'est qu'on ne doute pas qu'elle se fera. Marie avait lu en Isaïe qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils. Mais elle n'avait pu y lire comment s'accomplirait ce mystère. C'est pourquoi elle répond à l'ange par sa question « Comment cela se fera-t-il ? » Ce « comment » merveilleux n'avait pas été révélé, même à un si grand prophète. Il convenait qu'il fût annoncé non par la bouche d'un homme, mais par un ange. La réponse de Marie à l'ange est donc la réponse de la virginité « Je ne connais point d'homme » et la réponse de la foi « Elle ne doute pas, elle demande seulement comment. » Inspirée par le Saint-Esprit, Élisabeth lui dira quelques jours plus tard « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Devant la foi de Notre-Dame, l'ange peut donc maintenant révéler le « comment » du grand mystère. L'Esprit-Saint viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. Et il insiste de nouveau sur la dignité de celui qui va être conçu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Pour solliciter le consentement de Notre-Dame, l'ange va ajouter maintenant un signe. La Vierge Marie croit sans aucun doute, mais l'intelligence humaine est toujours réconfortée, encouragée, lorsque quelques signes viennent confirmer sa croyance. Aussi, non pas pour convaincre Notre-Dame qui n'en a pas besoin, mais eu égard à la faiblesse de l'esprit humain, de tout esprit humain, l'envoyé de Dieu ajoute par délicatesse un argument montrant la toute-puissance divine et que Marie pourra bientôt constater elle-même. Voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et on retrouve encore « voici, ecce », comme tout à l'heure. Cela veut dire « c'est immédiat, c'est fait ». Alors, au nom de toute l'humanité, Notre-Dame va donner la réponse qui va déclencher le salut du monde. « Je suis la servante du Seigneur ». Qu'il me soit fait selon votre parole. La Vierge Marie n'est pas éblouie un seul instant par l'éminente dignité de Mère de Dieu qui lui est proposée. Elle-même ne se considère que comme une servante. Humilité de Notre-Dame. Et elle le chantera dans son Magnificat au jour de la Visitation. Respexit humilitatem ancillae suae. Il a regardé l'humilité de sa servante. Et une bonne servante obéit immédiatement à son maître. La réponse de la Vierge Marie est un acte d'obéissance au plan de Dieu sur elle et par elle sur le monde. Notez encore l'humilité de sa réponse. Elle ne dit pas « je vais faire ». J'accepte, elle dit, qu'il me soit fait, fiat mihi. Elle-même, elle disparaît. Réponse de foi à tout ce que l'ange lui a dit, réponse d'humilité, réponse d'obéissance, et d'obéissance à la croix, à un plan divin qui passait par la croix. Notre-Dame savait qu'en disant son fiat, elle entrait dans une mer de douleur qui la conduirait jusqu'au calvaire. Eh bien, chers fidèles, dans cette scène de l'Annonciation, nous avons tout le programme de notre vie. Chaque instant de nos journées vient à nous chargé d'une volonté de Dieu à accomplir pour notre salut et pour le salut des âmes. Comme Notre-Dame, répondons avec foi. Croire fermement que la providence divine est infaillible et qu'elle est présente dans tout événement qu'elle a suscité ou qu'elle a permis. Répondons avec humilité. Être prêt à renoncer à nos plans, à notre organisation, à nos désirs du moment, si les événements ne le permettent pas. Réponse d'obéissance. Conformant notre volonté exactement à celle de notre Seigneur, que celle-ci nous soit clairement manifestée par les commandements de Dieu ou de l'Église, ou par nos supérieurs, ou encore par des événements imprévisibles, un contretemps, un échec, un problème de santé, etc. Chers enfants, vous voyez, quand papa ou maman, quand les maîtresses vous demandent quelque chose, pensez que c'est Jésus qui vous le demande. Et comme la Sainte Vierge, dites oui à tout ce qui vous est demandé. C'est comme cela que vous irez au ciel. Chers fidèles, lorsque nous récitons l'Angélus trois fois par jour, faisons-le non seulement pour rendre grâce du grand événement de l'incarnation, mais aussi pour demander d'imiter Notre-Dame dans son obéissance à la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.